sanctionné. Un journaliste de la BBC venu couvrir les manifestations dans le pays a lui été expulsé.
Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous dans Décryptage. Ce soir, les journalistes sont-ils délibérément pris pour cible à Gaza ? La question fait toujours froid dans le dos, comme les chiffres. Environ 170 journalistes ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Une hécatombe sans précédent, selon Reporters sans frontières, et qui a motivé une nouvelle enquête de Forbidden Story dans le cadre du Gaza Project, le projet Gaza, qui avait déjà révélé l'an passé que certains journalistes avaient été pris pour cible par l'armée israélienne. Sous la houlette de Forbidden Stories, un consortium de 12 médias internationaux, dont RFI, ont donc de nouveau enquêté sur ces journalistes tués ou blessés dans l'exercice de leur métier, et notamment ceux qui utilisent des drones pour documenter la guerre à Gaza. Des témoignages durs et édifiants et qui engagent la responsabilité de l'armée israélienne. Pour en parler ce soir avec nous sur RFI, Laurent Richard, le directeur de Forbidden Stories. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci de nous rejoindre sur la radio mondiale. Également à mes côtés, les deux grands reporters de RFI qui ont collaboré à cette enquête. Nicolas Falaise du service international de RFI. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Et en ligne avec nous depuis Jérusalem, notre envoyé spécial permanent, Samy Bourlifa. Bonsoir Samy.
Bonsoir à tous.
Et pour commencer, Laurent Richard, pourquoi avoir relancé ce projet Gaza ?
C'était important de le faire, de ne pas...
Radio G. 101.5 FM.
Enfin, l'heure approche. Le 5 et 6 avril, nous nous réunirons. Un lieu unique, le parc des expositions d'Angers. Là, notre plan prendra forme et personne ne pourra l'arrêter.
Radio G portera notre voix avec 8 émissions. L'illusion s'effacera et l'ombre prendra le dessus.
En chacun de vous, un vilain sommeil. Il suffit d'un frisson, d'un murmure, d'un pas de trop dans l'ombre.
Angers Geek Fest, les 5 et 6 avril, au parc des expositions, Radio G sera là. Et vous, saurez-vous résister ou sombrerez-vous ?
Info sur radio-g.fr avant qu'il ne soit trop tard.
Vous êtes chanteuse, chanteur, seul ou en groupe, et vous voulez que votre dernière création passe à la radio ?
Alors participez à la 6e édition de Radiovision, le concours de chansons.
Rendez-vous sur radiovision.fr, mais attention, c'est jusqu'au 18 avril seulement.
Bonne chance et à bientôt pour la finale sur radiovision.fr.
Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Nous, lundi, on était avec Marc-Édouard Gauthier pour parler de la fermeture de la bibliothèque Toussaint. Mardi, on était avec Charles et deux professeurs de l'école du Mont-Saint-Sacrement au Québec. Et on a parlé improvisation. Mercredi, c'était le cinéma sprint. Et ce soir, on reste un peu en culture puisqu'on est avec le Quai qui va nous présenter Écriture en acte. C'est un programme qui mêle un petit peu lecture, mise en espace, des performances et des rencontres. C'est un petit peu un laboratoire de création, mais je vous en dis pas plus. C'est Pauline Deboffle, chargée de communication numérique, et Julien Villeneuve-Pasquier, en charge des relations publiques, qui vont tout nous expliquer dans quelques instants. Et ce soir, on a aussi un deuxième invité et on parle de rhum arrangé à consommer avec modération, bien sûr. La marque, ça s'appelle justement la marque Noire et on sera avec son fondateur, Adrien Butaï. Ce soir, malheureusement, pas de cro-cro, mais on fait des gros bisous à Charlie qui nous écoute peut-être sur le site internet depuis l'île de la Réunion. Mais on écoutera quand même un petit podcast des légendes imaginaires de l'Anjou et on se quittera avec un nouvel épisode de Choupi Matoudi. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette, sur Radio G.
Et juste avant de commencer, une petite annonce. Si vous aimez la musique, un apéro-concert avec Indira Maze aura lieu le vendredi 28 mars à partir de 19h au sein de la Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin à Angers. Et nous, on peut tout de suite accueillir nos invités du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Ce soir, on est donc avec Pauline Deboffle. Bonsoir.
Bonsoir.
Chargée de communication numérique au sein du Quai et Julien Villeneuve-Pasquier. Bonsoir.
Bonsoir.
En charge des relations avec le public. Et ce soir, vous êtes venus tous les deux nous parler d'un temps fort qui arrive prochainement. Ça commence le 22 avril pour une dizaine de jours, il me semble. Et ça s'appelle Écriture en acte. Est-ce que Pauline ou Julien, l'un de vous peut nous présenter en quelques mots ce que c'est Écriture en acte?
Eh bien oui, parce que la saison du Quai est loin d'être terminée. Donc elle se poursuit avec un nouveau rendez-vous, un rendez-vous inédit, autour des écritures contemporaines, qui a été créé par nos directions Marcel Ifonzobo et Jacques Peignet, et qui va inviter les Angevins et les Angevines à venir découvrir eh bien ces auteurs, ces autrices qui traite de thématiques qui traversent la société aujourd'hui, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociétales. Et donc cet événement, effectivement, a lieu du 22 avril jusqu'au 7 mai.
Et alors, c'est la toute première édition. Comment est né cet événement? Quelle était l'idée de base, Pauline?
Alors, en effet, donc ça fait partie du projet, comme le disait Julien, de la direction du Quai qui déploie cette saison, sa première saison. Et donc, l'idée, c'était justement de mettre en valeur, de faire un gros focus sur ces écritures contemporaines, puisqu'on va accueillir un certain nombre d'auteurs et d'autrices francophones vivants et vivantes. Voilà, donc c'est vraiment l'écriture contemporaine. Et la particularité de cet événement, c'est de faire le parallèle entre donc un auteur, une autrice et un acteur, une actrice, puisque c'est un festival de solo, de seul en scène, voilà, donc des spectacles avec une seule personne qui parfois est la même personne qui a écrit le texte qui va être joué sur scène. Donc c'était vraiment faire ce parallèle là et valoriser ces deux artistes à chaque fois sur chaque spectacle. Donc on va avoir vraiment des thématiques très diverses, mais aussi des en langue française, mais des spectacles qui peuvent venir un petit peu d'ailleurs. Je pense notamment à l'Amérique latine avec le cœur du mal, qui est un texte de Maria Negroni, qui est une autrice argentine. Voilà, donc on vous en dira plus tout à l'heure, mais c'est vrai que ça permet d'aborder beaucoup de thématiques.
Et quel genre de thématiques on peut avoir? Est-ce qu'il y a un fil conducteur d'ailleurs tout au long de l'événement, ou c'est plusieurs thématiques différentes rassemblées?
Alors il y a effectivement plusieurs thématiques différentes, mais on va là traiter d'objets qui sont soit du théâtre dit documentaire, soit du théâtre de fiction. Donc certaines pièces, par exemple comme Il s'en va de Raoul Fernandez, mis en scène par Marcel Ifonzobo, lui va vraiment s'attacher à nous raconter l'histoire de ce personnage de Raoul. Voilà, donc en partant de faits réels de sa propre vie.
Et est-ce que le but de tous ces spectacles, c'est aussi de faire passer des messages aux spectateurs peut-être?
Alors, je pense que tous les spectacles, même si on n'a pas forcément une morale ou quelque chose comme ça à la fin, oui, l'idée c'est de transmettre, voilà, des pensées, des façons de voir le monde, voilà, des regards sur des sujets d'actualité. Il y aura aussi des propositions plus drôles, traversées par voilà, par l'humour ou plus musicales ou plein de choses comme ça. Mais là, tu parlais en l'occurrence, Julien, de Il s'en va, voilà, donc avec cet acteur qu'on a déjà Vioquet, Raoul Fernandez, qui donc est mis en scène par Martial Difonzobo. C'est un triptyque autour de sa vie, et donc c'est un acteur qui à la base est costumier de théâtre, qui vient du Salvador, donc un petit pays en Amérique latine, et qui est arrivé en France pour être costumier à l'Opéra de Paris. Et donc en fait, c'est là ce qui est assez intéressant, c'est que c'est sa propre vie, et l'auteur Philippe Mignana a écrit sur sa propre vie. C'est aussi le cas de Pierre Maillet, qu'on a pu voir dans « Et j'en suis là de mes rêveries » en janvier, le spectacle, donc à partir du texte d'Alain Guiraudy. Et donc, Pierre Maillet, lui, a été traversé durant sa vie beaucoup par le cinéma, sa rencontre avec des grands personnages de fiction. Et donc, Tanguy Vielle, qui est aussi un auteur contemporain, a écrit également un texte pour lui, en fait, donc dans Une vie d'acteur, qu'on pourra voir durant Écriture en acte. Même chose, qui raconte un peu de façon biographique la vie de cet acteur. Voilà, donc on est plutôt sur des, disons, des regards sur le monde, et parfois des biographies, voire des autobiographies.
Il y a aussi des lectures dans cet événement. Est-ce que c'était une volonté de proposer un petit peu des formats entre guillemets atypiques pour cet événement?
Oui, tout à fait. On a trois lectures. Et donc là, justement, c'est pour vraiment mettre en valeur les auteurs et les autrices, qui sont souvent des personnes, en fait, que le public ne voit pas sur scène. On entend leurs mots, on lit leurs mots, mais on n'a pas forcément l'habitude de les rencontrer. Et là, donc, ce sera le cas notamment avec Sonia Cambretto, qui est artiste, enfin autrice associée au Quai, qu'on a déjà vu dernièrement donc dans le spectacle Oasis Love, qu'elle a présenté au Quai cette saison. Et là, donc, elle revient avec le texte Peine mineure. Et donc là, la particularité, c'est que c'est elle, l'autrice, qui va lire donc une partie de son texte au public dans une lecture performée. Donc c'est vrai que ça permet une autre relation au public, un autre rapport, puisqu'ensuite le public, voilà, pourra aussi échanger avec elle. Voilà, on va aussi accueillir Laurent Poitronneau et Olivier Cadio, ainsi que Sandra Lucbert, qui va lire sans doute, voilà, un texte inédit qui ne sera pas forcément publié. Donc je pense que pour les auteurs, c'est aussi intéressant de, voilà, se confronter et échanger avec ce public qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de rencontrer sous ce cadre-là.
Et donc, il y aura des spectacles au Quai, mais pas que. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres lieux qui seront investis dans la ville d'Angers? J'ai vu qu'il y avait des partenariats avec d'autres structures.
Eh bien, justement, la lecture performée, donc Peine mineure, sera jouée au 4, donc en partenariat avec l'Université d'Angers. Et puis sinon, nous sommes en partenariat également avec le théâtre du Champ de Bataille, avec Arcadie. Et le théâtre de Saint-Barthélemy d'Anjou.
C'est ça, le THV pour le spectacle Conversation entre gens ordinaires. Voilà, qui d'ailleurs, je le précise, sera présenté aussi en langue des signes française. Voilà, là-bas. C'est une action pour l'accessibilité aussi qu'on met en place. Et il y aura également une projection aux 400 coups du film Marie-Lou, une femme remarquable. Donc ça, ce sera le 17 avril autour donc de Marie-Lou Marini, qui est une grande actrice qu'on pourra voir donc dans Le Cœur du Mal, le spectacle écrit par Maria Degroni dont on parlait plus tôt, qui est une production du Quai. Voilà, donc histoire d'en connaître un peu plus sur sa vie, aux 400 coups à 18h le 17 avril.
Et est-ce que niveau scénographie, on peut s'attendre à des choses très visuelles avec une grande scénographie, ou alors on se concentre vraiment justement sur le texte dans certains spectacles?
Alors, ça dépend vraiment, c'est très variable, parce que c'est vrai que quand on pense seul en scène, c'est pas forcément des décors ou des scénographies très minimalistes. Je pense notamment au spectacle Portrait de l'artiste après sa mort, qui est donc un spectacle donc joué par Martial Difonzobo, un seul en scène donc de notre directeur Martial Difonzobo, qui a été écrit par Davide Carnevali. Et donc là, on est vraiment sur un décor assez important qui joue avec les codes du musée, puisqu'en fait, il sera présenté sur la grande scène du T900, mais le public sera installé sur la scène, donc vraiment de façon immersive, presque dans le décor. Et sans vous spoiler, le public est à un moment du spectacle invité, s'il le souhaite, à monter sur la scène, à déambuler dans le décor. Et là, on a vraiment un décor, voilà, assez important, avec de la vidéo, etc. Donc, seul en scène n'est pas forcément synonyme de minimalisme, même si ça peut l'être dans d'autres propositions, en effet.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu du théâtre immersif? Tout à l'heure, tu parlais d'inviter le public à monter sur scène. Est-ce que ça y ressemble un petit peu, du coup?
Alors, il peut y avoir voilà un côté immersif. Là, c'est la spécificité particulière de ce spectacle. Mais souvent, le fait d'avoir un seul en scène, on peut être souvent sur des plus petites jauges, des plus petites salles, pour permettre d'avoir une relation plus intime en fait avec le spectacle. Voilà, le spectateur va souvent être situé peut-être plus en proximité, comme on n'a qu'un seul acteur ou actrice. Et c'est vrai que ça permet même dans les propos en fait qui sont exprimés durant le spectacle, peut-être voilà une relation plus intime, plus personnelle. Avec le public, voilà, c'est il y a quand même cette fragilité de compter sur une seule personne pour nous emmener tout au long d'une œuvre artistique, et c'est vrai que c'est très chouette aussi à découvrir.
On continuera de parler de tout ça juste après de la programmation, du contenu et des artistes, mais vous restez avec nous. On va d'abord faire une petite pause musicale sur le 101.5 FM. On écoute Inside My Brain de Vapa. C'était Inside My Brain de Vapa sur le 100.5 FM, mais vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On est toujours en compagnie de Pauline Deboeuf, le chargé de communication numérique, et Julien Villeneuve-Pasquier en charge des relations avec le public. Alors tout à l'heure, on a présenté l'événement Écriture en acte, et si on parle un petit peu plus maintenant du contenu et notamment de l'ouverture, je crois qu'il y a deux productions du Quai, c'est ça Julien, Pauline?
Oui, exactement. Alors donc l'ouverture le mardi 22 avril, mais ces deux spectacles jouent aussi donc respectivement à 19h et à 21h, c'est-à-dire qu'on peut enchaîner les deux dans une même soirée. Donc ils jouent également le 23 et le 24 avril. Donc il s'agit du Cœur du Mal, écrit par Maria Negroni, et donc dans lequel joue Marilou Marini, donc une grande actrice argentine. Et également donc à la suite, Il s'en va. Donc c'est la seconde partie du Portrait de Raoul. Donc ça s'inscrit dans un triptyque écrit par Philippe Mignana et mis en scène par Marcia Di Fonzobo autour donc de l'acteur Raoul Fernandez. Et donc là, la particularité de ces deux spectacles, c'est que ce sont des productions du Quai. Et donc juste pour rappeler, donc le Quai en tant que centre dramatique national, l'une de ses missions est donc de créer, de produire des spectacles. Voilà des donc différentes propositions, et donc là durant ce temps fort on va donc avoir les premières de ces deux spectacles. Voilà, donc c'est chouette aussi de découvrir cette facette du lieu. Voilà, c'est indiqué création sur les différents documents de communication. Et là, en plus, c'est vrai que c'est chouette de découvrir ces, ou de redécouvrir, parce que c'est quand même des acteurs qui tournent beaucoup. Voilà, ces deux figures que sont Marilou Marini et Raoul Fernandez, qui d'ailleurs ont comme point commun d'être originaires d'Amérique latine, mais donc ce seront des spectacles en français. Voilà, je vous invite vraiment à enchaîner, voilà, les deux. Sachant que nous mettons aussi en place une offre tarifaire, donc le pass écriture en acte à 12 € le spectacle à partir de 3 spectacles. Voilà, pour vous permettre de multiplier les propositions durant ce temps fort, si vous le souhaitez.
Et est-ce qu'on va pouvoir découvrir des textes d'auteurs un petit peu émergents qui commencent à venir des nouvelles voix pour cette édition, Julien?
Alors moi je voulais mettre en avant un texte justement qui va être proposé aux familles et aux jeunes publics à partir de 8 ans. Et donc c'est un texte qui s'appelle Esquif à fleur d'eau et qui est mis en scène par Anaïs Allais Benboili. Et qui parle de l'exil et de la traversée de la Méditerranée pour beaucoup qui cherchent un meilleur. Et c'est la mer Méditerranée qui s'exprime. Et là, c'est effectivement une autrice qui émerge.
Et est-ce que du coup, c'est des artistes qui viennent du monde entier, internationaux ?
Il y a énormément d'artistes, d'auteurs français, voilà. Et puis, comme le soulignait tout à l'heure Pauline, également un focus sur l'Amérique latine.
Et est-ce que du coup c'est un événement qui est accessible à tout le monde, même aux personnes qui sont pas vraiment initiées au théâtre contemporain ou choses comme ça?
Oui, tout à fait. Justement, comme on a beaucoup de propositions avec différentes thématiques, c'est vrai que voilà, on va de la biographie. Là, Julien parlait donc voilà de ces problématiques dans la mer Méditerranée, sur une forme jeune public, donc là vraiment accessible aux familles. On a aussi le spectacle Je vis dans une maison qui n'existe pas, donc de l'autrice et comédienne Lorraine Marx, où là on parle plutôt de santé mentale, de problématiques de genre. Voilà, donc on explore quand même pas mal de sujets et je pense que chacun chacune peut trouver voilà chaussure à son pied, un spectacle à son goût. Et donc ce qui est assez chouette, c'est que la plupart des textes sont aussi disponibles édités en fait, et donc seront disponibles ou à la librairie du Quai ou ailleurs, mais on peut aussi avoir un peu une idée de tous ces textes, voilà, voir un peu quelle est la langue qu'on va pouvoir entendre au plateau. Donc oui, tout à fait accessible à toutes et tous.
Et donc, écriture en acte, c'est la première édition pour l'instant. Est-ce que c'est un événement qui a vocation à perdurer d'autres années, à continuer?
Eh bien, je pense que oui, parce que l'écriture contemporaine, en tout cas les textes contemporains, sont au cœur aussi du projet de Marcel Ifonzobo et Jacques Peignet. Et donc, il y aura probablement, là on fait pas de spoil, mais il y aura probablement une seconde édition la saison prochaine.
Et est-ce que l'événement, il pourrait s'ouvrir à d'autres disciplines artistiques, un petit peu de la danse, de la musique, des choses comme ça?
Eh bien, à l'intérieur déjà de ces spectacles, par exemple sur Esquif, il y a une comédienne violoncelliste qui sera présente sur le plateau. Et bien souvent aujourd'hui, le théâtre emprunte aussi aux autres disciplines, qu'elles soient le chant, la danse, la musique bien entendu.
Et est-ce qu'on peut peut-être parler des autres actualités du Quai? Est-ce qu'il y a des spectacles qui arrivent incessamment sous peu dont vous voudriez parler?
Alors Julien, peut-être, je sais pas, que tu veux parler de La Nageuse de l'Extrême?
Mise en scène par Élise Vigier. La Nageuse de l'Extrême, c'est vraiment une conversation entre deux femmes. Élise Vigier qui a traversé une maladie récemment et qui a rencontré Marion Joffle, qui elle est une nageuse, qui va dans les eaux froides et qui traverse par exemple la Manche dans quelque chose d'assez dur, voilà, et qui a elle-même connu une maladie infantile. Et donc c'est cette rencontre entre ces deux personnes, ces deux trajectoires qui va être montrée donc sur les plateaux à partir du 13 mai.
Parfait, vous restez avec nous, on rappellera toutes les infos pratiques en fin d'émission, mais pour l'instant on va écouter un podcast des légendes imaginaires de l'Anjou, ça s'appelle le Chêne parlant de Béhar.
Chronique des légendes de l'Anjou. Au cœur du Val-de-Loire, sur la petite île de Béhar, nichée dans la Loire, entre Angers et Savennières, se raconte une histoire aussi ancienne que mystérieuse, celle du chêne parlant. Cette histoire remonte au Moyen-Âge, à une époque où l'île de Béhar n'était qu'un refuge de pêcheurs et de bateliers. Sur cette île se trouvait un chêne majestueux, vieux de plusieurs siècles, dont le tronc noueux et les branches tordues inspiraient à la fois respect et crainte. Un jour d'orage, alors que le tonnerre grondait et que la Loire menaçait de déborder, un groupe de pêcheurs se réfugia sous les branches des vieux chênes. Soudain, au milieu des éclairs, ils entendirent une voix grave et profonde qui semblait provenir du cœur même de l'arbre. La voix leur parla de l'avenir de l'île, prédisant qu'un jour, un sanctuaire y serait érigé et que Béouar deviendrait un lieu de pèlerinage. Les pêcheurs, terrifiés mais fascinés, répondirent à la nouvelle de ce chêne au pouvoir surnaturel. Rapidement, la réputation du chêne parlant gagna tout l'Anjou. Les habitants des environs venaient consulter l'arbre, lui demandant conseil sur leur récolte, leur mariage ou l'avenir de leurs enfants. On disait que le chêne ne parlait qu'au cœur pur et aux âmes en peine. Un jeune noble du nom de Jean de Bévard, seigneur local, vint à son tour consulter l'arbre. Tourmenté par des cauchemars récurrents, il espérait trouver la paix. Le chêne lui révéla qu'il devait construire une chapelle sur l'île pour apaiser son âme. Jean de Bévard suivit le conseil de l'arbre et fit ériger une petite chapelle près du chêne. Peu après, ses cauchemars cessèrent. Reconnaissant, il fit don de l'île à l'église. Au fil des siècles, la petite chapelle devint un lieu de pèlerinage important. Le roi Louis XI lui-même va s'y recueillir et fit agrandir l'édifice. La prédiction du chêne parlant s'était réalisée. Béouar était devenu un sanctuaire renommé. Quant au chêne parlant, on raconte qu'il continua à prodiguer ses conseils pendant des générations. Malheureusement, lors d'une terrible tempête, au XVIIe siècle, l'arbre fut frappé par la foudre et se fendit en deux. Les habitants de l'île, attristés par la perte de leur oracle, décidèrent de conserver une partie du tronc. Ils l'intégrèrent à la structure de l'église où il se trouve encore aujourd'hui, rappelant à tous les visiteurs l'histoire extraordinaire qui a donné naissance à ce lieu sacré. Bien que le chêne parlant ne soit plus, sa légende persiste. Les pèlerins qui visitent l'église Notre-Dame de Béouard touchent souvent le morceau de bois conservé, espérant peut-être encore recevoir un peu de la sagesse de l'ancien oracle. Cette légende, profondément ancrée dans l'histoire de Béouard, illustre la façon dont le merveilleux et le sacré s'entremêlent dans le folklore angevin. Elle témoigne aussi de l'importance des arbres dans les croyances anciennes, où ils étaient souvent considérés comme des intermédiaires entre le monde des hommes et celui des esprits. Aujourd'hui encore, l'île de Béouard conserve une atmosphère particulière. Les visiteurs qui s'y rendent peuvent y ressentir cette ambiance mystique, comme si l'esprit du chêne parlant continuait à veiller sur ce petit bout de terre au milieu de la Loire. Ainsi, la légende du chêne parlant de Béouard reste vivante dans la mémoire collective de l'Anjou. Rappelons à tous que parfois, la magie peut surgir des endroits les plus inattendus, même au cœur d'un simple arbre. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde fascinant des mythes et légendes de l'Anjou.
Vous pouvez retrouver les podcasts des légendes imaginaires de l'Anjou sur le site internet de Radio G dans l'onglet Podcast Plus. Et nous, on peut tout de suite passer à notre deuxième sujet du soir.
18h10, 19h, c'est Topette sur Radio G.
Je le disais du coup en tout début d'émission, ce soir on est avec Adrien Butaï. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es fondateur de la Marque Noire, donc c'est une production de rhum arrangé.
Oui.
Tu as décidé de changer de carrière. Avant, tu étais psychologue et tu es passé à producteur de rhum arrangé.
Oui.
Qu'est-ce qui a déclenché ce changement radical?
Alors, j'ai travaillé 8 ans comme psychologue. D'ailleurs, j'ai terminé mes études à Belbeil. C'est un petit peu mon fief aussi. La Marque Noire a vu le jour aussi à Angers. Et entre-temps, ma carrière de psychologue, je l'ai faite en Normandie. Et ce changement de cap est intervenu à un moment où j'avais envie de faire quelque chose de plus manuel, de plus artisanal, de créer quelque chose. Donc, créer une marque, c'est aussi y mettre un petit peu une part de son imaginaire. En tout cas, la Marque Noire, je l'ai voulu comme ça, avec un imaginaire, une identité assez forte. Donc ce besoin de créer, et puis évidemment ça en lien avec des passions que j'avais déjà, puisque je faisais déjà des rhums arrangés depuis une dizaine d'années avant ça.
Et donc, comment vous avez fait pour créer votre entreprise Vous êtes parti de zéro, vous avez tout créé vous-même ?
Les recettes, oui, effectivement. La marque, l'identité graphique que j'ai élaborée avec avec ma belle-sœur Hélène Butaille. Mais effectivement, donc après, bah, quand on crée, il y a aussi des inspirations, évidemment. Et le nom, notamment la marque noire, vient tout droit du célèbre roman d'aventure L'île au trésor. Donc voilà, on est dans l'imaginaire de l'aventure, de l'audace, de la piraterie, qui se recoupe bien avec le rhum.
C'est un monde qui vous inspire particulièrement ?
Oui, ben je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la piraterie, aux romans d'aventure, et justement pour la petite histoire, ben, j'ai commencé à faire des rhums arrangés avec des amis à l'occasion de week-ends jeux de rôle où on jouait à des jeux de rôle autour du thème de la piraterie. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire des rhums arrangés, certains d'entre nous à se faire goûter les recettes et voilà.
Alors moi j'ai noté que la marque noire proposait 5 parfums originaux, alors c'est peut-être plus, je ne sais pas si c'est le bon chiffre.
Oui, alors ça c'était à la création il y a 6 ans. Maintenant on a 2 gammes distinctes, on a la gamme rhum arrangé qui comporte 8 recettes et on a la gamme des rhums vieillis épicés, où là par contre on est sur quelque chose d'un peu plus haut en alcool, de pas sucré du tout. Et là il y a 2 recettes, donc le Black Bones et le Old Flint, qui sont justement inspirés aussi des romans, du roman L'île au trésor et des personnages qui y apparaissent.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du processus ? Comment on crée une recette de rhum arrangé ?
Dans une recette de rhum arrangé, alors chacun va avoir un petit peu sa manière de faire. Pour ma part, je pars toujours d'un fruit, c'est vraiment la base, et je cherche à le mettre en avant. Donc pour le mettre en avant, c'est à la fois trouver des fruits de bonne qualité. Et puis nous, on travaille aussi avec des épices. Et sur chacune de nos recettes, on a un nombre d'ingrédients assez restreint pour pas noyer les saveurs et pour que ça reste assez identifiable. Et on fait toujours un fruit avec une épice. Et donc l'épice va être là pour apporter des notes complémentaires dans le rhum. Donc voilà, on part d'un fruit. On cherche les bons fournisseurs aussi, on fait des essais. C'est assez long, hein, ça met à peu près, entre les premiers essais et la commercialisation, ça met à peu près 1 an et demi à 2 ans. Donc il faut trouver le bon équilibre de recettes, il faut trouver les fournisseurs. Et puis ensuite, il faut aussi travailler sur la nouvelle étiquette qui va habiller la bouteille. Donc ça aussi, voilà, c'est du travail en amont, avant la sortie, avant la commercialisation.
Je crois que vous utilisez aussi des ingrédients issus de l'agriculture biologique. C'est une volonté aussi pour vous d'avoir cette approche éco-responsable ?
Ouais, tout à fait. Bah, c'est quelque chose qui me et qui nous tient à cœur, hein, parce qu'on est 2 à travailler à la marque noire. Tous les fruits en fait qu'on utilise sont issus de l'agriculture biologique. Ils sont également locaux quand on peut. On travaille par exemple avec Armel de Régnaucourt du GAEC Les Fraises, qui est situé à Valenjoux, pour les fraises justement. On travaille avec le champ des hérissons du côté de Douai-la-Fontaine pour les concombres, avec Jérôme Malin aussi du cultivateur en herbe à Saint-Germain-des-Prés pour la menthe. Donc dès qu'on peut, on travaille en local et toujours en bio pour les fruits.
Et comment ça se passe ? Parce que je crois que vous étiez un des premiers producteurs de rhum arrangé d'Anjou. Est-ce que le rhum, c'est un marché qui est très présent, peu présent en Anjou ?
En Anjou, oui, et puis dans toute la France, même si on va dire que c'est l'engouement est né quand même il y a une bonne dizaine d'années, plutôt dans le Grand Ouest, hein, donc Pays de la Loire, Bretagne, beaucoup, c'est un petit peu le vivier en métropole. Et puisque bah voilà, hein, du coup, je vous apprends rien, le rhum arrangé, ça vient plutôt des Antilles. Et en général, bah, c'est plutôt les gens de métropole qui ramenaient ça de leur voyage aussi, qui ont souvent été marqués par ça au cours de leur voyage, et c'était un peu une manière de faire prolonger le soleil quand ils rentraient. Alors après, bah, pourquoi les Pays de la Loire et la Bretagne ? Peut-être aussi parce que bah, y a une façade maritime importante, sans doute, et que les Bretons voyagent beaucoup aussi, dit-on. Et après, bah, en Anjou, disons que le rhum arrangé, maintenant c'est un produit qu'on retrouve chez tous les cavistes. Donc c'est un petit peu un incontournable. Effectivement, on est tout seul aujourd'hui. Après, voilà, il y a quelques grandes marques qui vont dominer le marché. Il y a des marques de grande distribution, des marques plutôt du réseau caviste et épicerie fine, ce qui est notre cas à nous. et voilà, avec des positionnements différents sur chacun.
Alors tout à l'heure, vous avez ramené des petits flacons de rhum arrangé. Est-ce qu'on peut peut-être les décrire visuellement à quoi ça ressemble? Parce que c'est très soigné, le packaging et les bouteilles sont très belles.
Merci. Oui, donc j'ai apporté en cadeau un petit coffret découverte qui comporte deux bouteilles. Après, notre format principal, c'est une bouteille de 70 centilitres. La particularité qu'on a comparé à d'autres marques, c'est que on filtre nos produits. Et, on ne laisse pas, en fait, on fait pas nos macérations dans les bouteilles. On fait nos macérations en amont dans des cuves, et ensuite on va filtrer, on va récupérer le jus aussi des fruits qui ont macéré par un procédé d'extraction, et ça va permettre de renforcer les saveurs. Et enfin, donc on ajoute ce jus au rhum, un petit peu de sirop de sucre qu'on fait artisanalement, et on embouteille. Ce qui fait qu'on a une bouteille avec l'entièreté du volume qui est à consommer, et puis un produit qui va être aussi plus stable dans le temps, puisqu'il n'y aura pas d'oxydation, il n'y aura pas de fruits qui vont noircir ou qui vont changer le goût.
Si on parle un petit peu plus du coup de votre expérience d'entrepreneur, est-ce que votre métier de psychologue, ça vous a aidé? Est-ce que vous avez eu des bases pour vous lancer dans l'entrepreneuriat?
Non, pas du tout, aucune. Dans ma famille, en plus, personne n'était dans l'entrepreneuriat. Donc, ça a été vraiment une complète découverte. Et j'en apprends toujours aujourd'hui, hein, au bout de 6 ans. Donc, c'est aussi ça qui est attirant, qui est stimulant. Donc, effectivement, et puis surtout, quand on a une petite entreprise, faut un petit peu avoir toutes les casquettes. Donc, évidemment, l'aspect production, conception des recettes, on en a parlé. Mais il y a aussi l'aspect gestion d'une entreprise. Et puis, l'aspect commercial. Puisque quand on a une petite boîte, on est son meilleur vendeur, son premier et son meilleur vendeur. Donc, il y a aussi tout l'aspect commercial. Et c'est peut-être là que la psychologie, disons, on va dire, amène des billes dans le côté relationnel. C'est vraiment sous l'aspect relationnel. Plutôt que sur l'aspect analyse, où là on est vraiment dans le cadre particulier de la thérapie, ce qui est pas du tout le cas, mais dans l'aspect commercial, le relationnel compte. Oui, peut-être que ça a pu servir un petit peu. Ouais.
Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui aimerait lancer sa première entreprise, mais qui n'a aucune base justement?
Eh bien, déjà, j'imagine que pour tout le monde, quand on se lance, faut qu'il y ait quelque chose qui parte des tripes, hein, qui parte de soi, un savoir-faire qu'on veut mettre en avant, des choses qu'on veut transmettre. Pour moi, c'est vrai que dans l'aspect rhum arrangé, il y a aussi transmettre des émotions par le goût. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important et qui me fait très plaisir quand les personnes, souvent, ça leur rappelle quelques souvenirs. Donc déjà, en premier lieu, quelque chose qui nous tient à cœur, trouver quelque chose à mettre en avant. Après, en parler autour de soi aussi, puisque c'est extrêmement important d'avoir le soutien de sa famille, de son conjoint ou sa conjointe également, parce que même si on s'embarque seul là-dedans, on n'est pas tout seul, on embarque d'autres personnes avec nous. Donc ça, c'est très important d'avoir le soutien de son entourage. Et puis enfin, se faire aussi conseiller auprès d'interlocuteurs, de professionnels qui ont l'habitude d'accompagner des entrepreneurs comme la CCI, la Chambre du Commerce et de l'Industrie, ou la Chambre des Métiers de l'Artisanat.
Et dernière petite question avant de se quitter pour ce soir. Quel est, vous, votre rhum arrangé parmi toute votre sélection, celui que vous conseilleriez le plus?
Alors, mon petit favori, moi, c'est le rhum arrangé gingembre, qui est vraiment sur un côté monosaveur. Mais après, ils sont tous très différents, donc chacun va trouver sa préférence. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'en profite pour annoncer qu'on fait des portes ouvertes à notre atelier le samedi 5 avril. Donc ce sera l'occasion de visiter notre romerie, d'avoir quelques précisions sur la manière dont on élabore nos produits et puis de aussi les goûter.
Est-ce que vos produits, on les retrouve uniquement dans votre romerie ou on peut les retrouver autre part aussi?
Alors, on peut les trouver chez des professionnels, sur des points de vente. Sur Angers, il y en a plusieurs, donc je m'excuse d'avance pour ceux que j'aurais oubliés. Mais vous pouvez les retrouver à Chopé Compagnie, à Beaucouzé, à Épicave, dans la Doutre, Nuance Terroir, au Pont-de-Cé, Whisky District, Cave du Doyenné, et puis dans certains bars aussi.
Et est-ce que vous avez peut-être un site internet, des réseaux sociaux pour qu'on aille découvrir tout ça?
Exactement, donc notre site internet c'est www.lamarquenoire.fr et on a aussi notre page Facebook et Instagram. Donc Facebook c'est tout simple, La Marque Noire, et Instagram c'est La Marque Noire Rome au pluriel.
Merci beaucoup Adrien d'être passé dans l'émission. En première partie d'émission, on était aussi avec le quai. Donc on parlait de écriture en acte, ça commence bientôt le 22 avril. Est-ce qu'en quelques mots, on peut peut-être rappeler ce que c'est Adrien, écriture en acte?
Alors Julien,
Julien pardon, je me perds dans les noms.
Y aller ou non, j'y vais. Alors donc écriture en acte, donc le nouveau rendez-vous du Quai CDN, donc un temps fort autour des écritures contemporaines avec plusieurs partenaires, le Champ de Bataille, le THV, le 4, les 400 coups, voilà, pour découvrir de nombreux spectacles seuls en scène, donc des solos où on met voilà en exergue un acteur, une actrice, un auteur, une autrice, des auteurs autrices francophones vivants et vivantes, voilà, mais également des performances, des lectures, des rencontres, voilà, et donc tout ça commence le 22 avril et jusqu'au 7 mai au quai et donc dans chez nos partenaires.
Julien, est-ce qu'on doit réserver ses places avant de venir au spectacle, c'est mieux?
Oui, bien sûr. Donc là déjà les réservations sont ouvertes, donc soit en appelant la billetterie ou directement sur le site internet du quai.
Eh bien c'est parfait, on donne rendez-vous à tous nos auditeurs donc pour les portes ouvertes de la Romerie mais aussi du coup le 22 avril pour écriture en acte. Nous lundi prochain on parlera de l'événement Qui es-tu, c'est organisé par des étudiants de l'UQO. On aura aussi Courant Folie qui viendront parler de leur prochaine soirée. Mardi, on sera avec le Théâtre du Champ de Bataille et jeudi avec la Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Nous, on se quitte avec un podcast de Choupi Matoudi et moi, je vous dis à demain et topette.
Bonjour, c'est Lucie de Choupi Matoudi. Aujourd'hui, j'anime cette chronique avec Martin, notre stagiaire actuellement en 3e au lycée des Buissonnets.
Bonjour.
Ah, ça y est, il est là. Il est là le soleil. Enfin, on retrouve le bonheur de se réchauffer à ses rayons. Sa lumière nous donne envie de sourire. Bref, on est bien. Dans la nature, les petits oiseaux piaillent, discutent, ça picore dans la mangeoire encore pleine, mais c'est indiscutable, le printemps arrive. Les personnages sonnent la fin des jours de grand froid, les camélias annoncent de leurs roses empourprées l'éclosion de milliers d'autres fleurs et accueillent déjà un balai élégant d'abeilles, bourdons et autres papillons charmants. Et là, sous la haie, ce petit tas de feuilles mortes passe totalement inaperçu. Qui pourrait deviner qu'il s'agit d'un nid? Oui, un nid. Celui d'un des meilleurs amis du jardin, le hérisson. Ce petit mammifère étonnant et discret est encore en hibernation pour quelques jours ou quelques semaines. Alors, éloignons-nous à pas de loup et surtout ne le dérangeons pas. Pour parler de ce petit compagnon des bois et des campagnes, nous recevons aujourd'hui Cécile Marchand, vice-présidente de l'association SOS Hérisson 49. Bonjour Cécile, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Martin, comment vas-tu?
Très bien.
Alors, Cécile, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est à l'origine de la création de votre association?
Alors, notre présidente Hélène de Roman a fondé l'association SOS Hérisson 49 après avoir trouvé un petit hérisson devant chez elle et avoir contacté elle-même une association de protection du hérisson en France. Mmh. Elle a pris en charge ce hérisson avec l'association concernée et puis elle a décidé elle-même de venir en aide à ce petit mammifère il y a environ une dizaine d'années. Pour aider à lutter contre la détresse de cet animal emblématique et, comme vous l'avez dit, ami du jardinier.
Tout à fait. Alors, on m'a dit que c'était une espèce qui était passée au statut de quasi menacée. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors déjà, pour nous, c'est une reconnaissance pour les associations qui protègent le hérisson. C'est une reconnaissance parce que c'est quelque chose qu'on crie depuis très longtemps. Et on se rend compte du déclin du hérisson. Et pour nous, c'est une reconnaissance et en même temps, c'est une catastrophe. Mmh. C'est une catastrophe parce que au jour le jour, on se rend compte de l'augmentation des prises en charge, des appels pour les animaux en détresse pour différentes raisons. Et on se rend compte que c'est un puits sans fond.
Et quelles sont les causes principales, en fait, de leurs problèmes?
Alors, en fait, il faut savoir que le hérisson, c'est un animal contemporain du mammouth qui n'a jamais décliné jusqu'à sa rencontre avec l'homme moderne. Donc, nous sommes en grande partie responsable de son déclin. Alors, parmi les causes, eh bien, il y a la destruction de son habitat dans les campagnes. D'ailleurs, le hérisson devient de moins en moins un animal rural. Il est de plus en plus urbain parce que nous mangeons son territoire avec nos constructions. On a abattu les haies et c'est là qu'il fait son nid essentiellement et c'est là qu'il trouve à manger. Le trafic routier, bien sûr, la construction des routes, le trafic routier. Un hérisson a plusieurs nids. Quand il traverse une route, c'est pas par plaisir, c'est juste parce qu'il a plusieurs nids et que il a un nid d'un côté, un nid de l'autre, et donc il passe de l'autre côté pour aller retrouver son deuxième nid ou son troisième nid. Il y a aussi, bien sûr, l'usage intensif des pesticides. Le hérisson est un animal qui mange beaucoup d'insectes, d'arthropodes. Les insecticides ont tout détruit ou beaucoup détruit, donc ils ne trouvent plus rien à manger. Mmh. Il y a dans nos jardins la présence des grillages. Beaucoup de hérissons, de plus en plus, restent coincés dans des grillages. On en a toutes les semaines. On nous amène des hérissons ou on prend en charge des hérissons coincés dans des grillages. Ça fait des dégâts très importants. Les robots tondeuses qui happent les hérissons. En fait, ils ont des détecteurs, mais pas suffisamment puissants pour s'arrêter sur un hérisson qui est au niveau du sol. Il y a les piscines, il y a les outils de jardinage de plus en plus performants, les débroussailleuses.
On constate en fait, dans ce que vous dites, que principalement c'est beaucoup l'humain qui est à l'origine de problèmes pour lui.
Oui, excusez-moi, il y a un très faible pourcentage de hérissons qui meurent de prédation naturelle.
D'accord, et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à l'inverse pour les protéger, nous ?
Alors, pour les protéger, on peut très bien vivre en harmonie avec le hérisson. D'abord, si on a des grillages, on fait des passages dans les grillages. On évite les pesticides, on évite les petites graines bleues pour lutter contre les limaces. Parce que le hérisson, quand il va passer, lui, il va les manger. Mmh. Donc, il va faire le travail du jardinier. On peut faire fonctionner son robot tondeuse de jour et sous surveillance. On peut arpenter son jardin avant de tondre ou débroussailler pour voir s'il n'y a pas, comme vous le disiez tout à l'heure, dans un tas de feuilles, dans un tas de branches, dans des herbes hautes, un hérisson en train d'hiberner ou une maman qui est en train de protéger ses petits et de les allaiter. Faire attention, sécuriser. Il y a de plus en plus de piscines, donc on peut sécuriser sa piscine en mettant ne serait-ce qu'une petite cagette en plastique attachée dans le sol, quelque chose où le hérisson peut s'accrocher. C'est un excellent nageur, mais il se noie d'épuisement.
D'accord.
Je tiens à préciser qu'on ne relâche jamais un hérisson qu'on a trouvé ou dans sa piscine ou coincé dans un grillage. Il faut absolument qu'il soit vérifié par quelqu'un, par un centre de soins.
Donc vous avez un centre de soins qui est basé sur Angers.
Oui.
Bien que votre association soit à Chemillé.
Oui, nous avons deux centres de soins. Un à Chemillé, qui est chez la présidente, à l'origine de l'association. Et puis à Angers, moi je suis la vice-présidente et capacitaire aux soins pour le hérisson d'Europe aussi. Et donc j'ai ouvert un centre de soins il y a un an sur Angers.
Donc ce qui est formidable, c'est que vous me disiez, on peut vous laisser un message n'importe quand.
Oui.
Et vous venez en aide donc à ces petits mammifères de nos forêts et de nos jardins.
Voilà, nous sommes ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc il ne faut pas hésiter à nous téléphoner, on nous trouve partout sur Internet. On a un site internet, on a
avec plein de bons conseils. Allez voir SOS Hérisson 49, il y a plein de bons conseils dessus. Et vous, personnellement, Cécile, qu'est-ce qui vous a amené à vous engager pour cette cause ?
Eh bien, comme beaucoup de découvreurs, j'habite à Angers et j'ai trouvé un hérisson coincé dans un grillage. Pas chez moi, mais coincé dans un grillage. Malheureusement, il était déjà mort. Et puis, quelques temps après, alors d'abord, j'étais émerveillée d'avoir des hérissons dans mon jardin. Mais il faut savoir que les hérissons sont de plus en plus urbains, puisque c'est là qu'il va trouver les croquettes pour chats à manger. Et fouiller dans nos poubelles.
Parce qu'on rappelle que les croquettes au poulet sont un des aliments favoris des chats.
Voilà, parce qu'ils trouvent plus rien d'autre, en fait.
Ouais.
Et ils fouillent dans nos poubelles aussi, malheureusement. Ils mangent ce qu'ils trouvent, ce qui les rend malades aussi. Hein. Mmh. Et donc, j'ai trouvé deux jours un hérisson. Et je trouvais ça rigolo, en fait, un hérisson qui se promenait dans mon jardin en pleine journée. Et puis après réflexion, je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est un animal qu'on ne doit pas voir. C'est un animal nocturne. J'ai appelé Madame de Romans. Et j'ai mis le doigt dans l'association, puis le bras, puis la tête. Et aujourd'hui, j'y suis pleinement investie et je trouve que c'est défendre une très belle cause.
C'est très beau en effet.
Cécile, nous arrivons à la fin de cette chronique. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Alors, je vais ajouter d'abord un appel aux bénévoles. S'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre pour n'importe quelle action. Alors, on ne peut pas soigner puisqu'il faut un certificat de capacité pour soigner, mais on peut aider au centre de soins. On peut aider à faire beaucoup de choses pour l'association. Donc, nous avons besoin de bénévoles. Et puis, une petite précision. Je vais répéter une chose. Tout hérisson qui est vu de jour, c'est un animal en détresse. Et c'est une légende de dire que le hérisson mange des escargots, des limaces et des vers de terre parce que il en mange un petit peu, mais pas trop. C'est comme nous, les sucreries, si on ne mange que ça, on tombe malade.
Très bien, je vous remercie beaucoup Cécile, merci Martin, à bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.